Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Parmi les sujets dominants de cette année qui s'ouvre, la situation des femmes. En Afghanistan, où leurs droits continuent leur inexorable recul, grignotés jour après jour depuis l'arrivée au pouvoir des talibans le 15 août dernier, l'Afghanistan, mais pas seulement, dans son message du 1er janvier, le pape François a appelé le monde à retrousser ses manches pour œuvrer à la paix et assurer que la violence envers les femmes équivalait à outrager Dieu. Dans un précédent message, le souverain pontife avait souligné l'importance également de l'éducation, dont il déplorait la diminution des budgets, contrairement aux dépenses militaires, qui dépassent aujourd'hui le niveau de la fin de la guerre froide. Que de violence à l'égard des femmes ! Ce constat du pape est le sujet de notre émission aujourd'hui. Pour en discuter, nous invitons Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur de Violences sexuelles, les 40 questions incontournables. Muriel Salmona, qui est également membre de la commission scientifique de la chaire internationale sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits, dite chaire Mukwege, et de la commission indépendante inceste et violence sexuelle faite aux enfants, la Civise. Bonjour.
Bonjour.
Violaine Gagné, également en studio avec moi, directrice des programmes et opérations à Plan International France, une ONG qui œuvre dans le monde à l'égalité filles-garçons. Bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Michael Barry, écrivain américain, francophone et persanophone, ancien professeur au département d'études proche-orientales de l'université de Princeton et professeur en chef à l'université américaine d'Afghanistan qui se réinstalle désormais en Italie, spécialiste de la miniature persane, auteur de très nombreux ouvrages sur l'art islamique et sur l'histoire et la géopolitique de l'Afghanistan. Son dernier ouvrage, Le cri afghan, est paru récemment aux éditions L'Asiatech. Bonjour Michael Barry.
Bonjour.
On commence avec vous, Michael Barry, pour aborder la question de la situation des femmes en Afghanistan. D'après les informations que nous avons dans l'espace public, les Afghanes disparaissent peu à peu. Nombreuses sont celles qui ont cessé leurs activités pour éviter les violences et les représailles. Le ministère afghan de la promotion de la vertu et de la prévention du vice, qui a remplacé le ministère des Affaires féminines, a annoncé fin décembre de nouvelles recommandations concernant les femmes. J'en cite quelques-unes. Il est désormais demandé aux conducteurs de ne pas prendre de femmes à leur bord sur des distances au-delà de 72 km si ces Afghanes ne sont pas accompagnés par un parent masculin, respect du voile islamique et interdiction d'écouter de la musique dans les voitures. À cela s'ajoute la privation d'école pour les filles de plus de 12 ans dans de nombreuses provinces afghanes et interdiction pour les chaînes télévisées de diffuser des séries dans lesquelles les femmes apparaissent. Michael Barry, quelles informations avez-vous sur l'évolution de la situation des femmes en Afghanistan ?
La première chose que je dirais, c'est que la violence contre les femmes à travers le monde reçoit son critère d'horreur absolu dans le cas afghan. Parce qu'en Afghanistan, la violence contre les femmes n'est pas une bavure, n'est pas un incident, un dommage collatéral ou même une arme de guerre pour humilier, abaisser une ethnie vaincue, comme c'est souvent le cas, y compris dans les guerres civiles d'Afghanistan. Mais dans le cas afghan, il s'agit d'un principe érigé comme loi qui se veut une loi divine. C'est-à-dire que l'Afghanistan actuel, depuis le 15 août, proclame hautement que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à laquelle a souscrit l'Afghanistan indépendant à l'époque, est tout simplement nulle et non avenue. Que l'égalité entre hommes et femmes proposée par la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas légitime. Que la seule législation légitime émane de Dieu, dont l'émir absolu, Raïbatullah Akhundzadeh, est l'interprète entouré par des clercs spécialisés dans le droit coranique, mais que la législation ne saurait être soumise à un électorat, ne saurait être remise en question par des êtres humains, parce que la seule législation légitime est d'origine divine. Donc, toutes les inégalités consacrées par la charia, par le droit islamique traditionnel, sont considérées comme seules valables. Là-dessus, le gouvernement actuel des talibans, conseillé en ceci par la très très grande expérience des services secrets pakistanais, s'efforce d'obtenir une reconnaissance légitime internationale. Et pour ce, va renoncer aux effets les plus spectaculaires de la violence contre les femmes, comme ce qui avait lieu dans les années 90, pour au contraire mettre en place ce que j'appellerais l'oppression doucereuse, juste en deçà d'un seuil de tolérance internationale, pour s'assurer au moins l'acheminement de secours alimentaires et médicaux indispensables pour empêcher l'effondrement de l'État. Donc, le gouvernement des talibans actuellement multiplie les petites mesures oppressives tout en essayant de les maquiller, mais qu'on le sache bien et que l'on ne soit pas dupe, il s'agit d'un camouflage à effet politique de propagande internationale et non pas de ce que j'appellerais le droit. Parce que le droit, en ce qui concerne les talibans, est la chariat et non pas la Déclaration universelle des droits humains. Et là, nous sommes face à une contradiction majeure dans le système politique international actuel.
Merci beaucoup, Michael Barry, pour ce témoignage et ce panorama, ce contexte posé sur la question de la situation des femmes en Afghanistan. On reviendra peut-être avec vous sur l'évolution pendant les 20 ans d'occupation américaine, tout de même voir un petit peu quelles avaient été les avancées et les reculs d'aujourd'hui. Commentaire ici en studio avec vous, Muriel Salmona et Violaine Gagné. Muriel Salmona.
Oui, on est effectivement effondré de cette situation et très inquiet de la réponse internationale. Déjà, on a trouvé que en août, c'était bien faible toutes les réactions à l'arrivée des talibans et que pour des raisons politiques qui sont pas brillantes, effectivement, il y a un abandon réel des femmes à une situation de discrimination extrêmement grave et de violence qui va avec très importante. Et je voulais signaler d'ailleurs que quand on parle de femmes, il ne faut pas oublier que ça commence tout à fait au niveau des filles, hein, que c'est filles et femmes, et qu'il y a un continuum de violence qui s'installe dans ces cas-là et qui est une violence systémique et effectivement là qui est inscrite dans le système politique et incontournable en quelque sorte. Donc là, on peut faire appel quand même à la communauté internationale pour réagir. Et ça va avec aussi pas mal de régressions, je pense que vous en parlerez, Violette, de régressions qui concernent quand même le droit des femmes. On a vu dans pas mal de pays les régressions aussi par rapport au droit à l'avortement, une régression dans le cadre de la scolarisation des filles avec la situation de crise sanitaire. Aussitôt qu'il y a une crise, qu'elle soit sanitaire, politique, que ce soit la guerre, les filles et les femmes vont subir directement des régressions par rapport à leurs droits et par rapport à leur intégrité et à leur dignité. Et ça, partout, même en France, hein, on sait qu'il y a une augmentation des violences faites aux femmes et aux filles du fait de la crise sanitaire. Donc, il faut être extrêmement vigilante et monter vraiment au créneau au niveau international.
Violaine Gagnier.
Oui, nous sommes très inquiets aussi à un plan international et toute la communauté humanitaire. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les conséquences. C'est vrai que l'Afghanistan est un peu malheureusement le résumé de toute crise humanitaire qu'on peut rencontrer avec la Covid en plus. Les violences domestiques sur les femmes, les violences sexuelles, le mariage précoce. À chaque fois, là aussi, dans un contexte de crise, les femmes ou les filles sont mariées avant 18 ans de façon très forte, en plus avec des pratiques qu'elles soient coutumières ou religieuses et qui vont amplifier ce phénomène. On va aussi avoir le phénomène de jeunes filles qui vont tomber enceintes, des grossesses non désirées, donc des conséquences très fortes sur elles d'un point de vue physique et psychique. Et puis effectivement l'école. L'arrêt de l'école, ça veut dire qu'une fille qui ne va pas à l'école a trois fois plus de risques d'être mariée avant ses 18 ans. C'est aussi évidemment une perte dans l'évolution, dans le développement humain et économique. Ensuite, d'un point de vue très opérationnel humanitaire, on est aussi inquiet pour l'Afghanistan, car il est très compliqué pour les humanitaires de travailler dans le pays. Donc on laisse une population vient totalement à l'abandon.
Michael Barry, je vais vous demander de réagir à peut-être ce qui s'est dit là, et puis on va avancer dans le débat avec plusieurs éléments. D'abord, les États-Unis ont nommé un représentant spécial en charge de la question des femmes en Afghanistan. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et dans votre ouvrage, Michael Barry, dont je rappelle le titre, le cri afghan, vous dites que la violence antiféminine des talibans, des partisans de Daesh ou d'Al-Qaïda, ou encore des Shabab ou de Boko Haram en Afrique, exprime aussi sous la domination patriarcale implacable de leurs gérontes, croyants ou tartuffes, je vous cite toujours, les frustrations sexuelles de jeunes mâles interdits de fréquentation quotidienne, normale, du monde féminin, accumulant dans leur cervelle et dans leurs entrailles, pubère, la méconnaissance, le désir, le ressentiment, la haine, la rage, la folie pour aboutir à la déshumanisation des objets de leur pulsion. Vous êtes très clair et vous ciblez bien votre propos, Michael Barry.
Si j'essayais de résumer la situation de la femme afghane, ce serait balayer, j'ose dire, toute l'histoire de l'oppression des femmes par les hommes sur tous les plans, social et traditionnel, et aussi religieux et culturel. Alors, pour tâcher de m'expliquer, au départ, il y a dans les campagnes afghanes un système de troc où c'est par les jeunes filles vendues par leurs parents aux prétendants potentiels que s'ajoute un échange de terrain ou de troupeau pour justement acheter la main d'une jeune fille à ses parents. Et une grande partie de l'économie rurale dépend en fait de la mise sous boisseau des jeunes filles comme véritable monnaie d'échange entre les familles ou entre membres d'un même clan. Donc le système de l'oppression féminine en Afghanistan rural est aussi tissé de manière intime dans la trame même de la vie agricole, je dirais que le système de l'esclavage dans le sud des États-Unis, avant l'abolition de l'esclavage dans mon pays en 1863 et dans les faits en 1865. C'est-à-dire qu'une population rurale dont l'économie croit devoir dépendre, donc dépend du maintien en esclavage des jeunes filles comme monnaie d'échange, est une économie dont les propriétaires se sentent tellement menacés qu'ils sont prêts à prendre les armes pour défendre cette hiérarchie traditionnelle. Et encore une fois, je fais la comparaison avec les sudistes américains dans les années 1861-1865. C'est-à-dire que nous avons assisté en Afghanistan à une véritable guerre civile où ce sont, hélas, les esclavagistes qui ont gagné. Je poursuis dans l'analyse. Pour maintenir cette domination sur les femmes, le droit rural afghan, et c'était le cas dans de nombreuses sociétés de la planète, reconnaît à certains mâles dominants, à savoir le père, le mari, le frère, voire le fils, le droit absolu de vie et de mort, c'est-à-dire la possibilité de tuer une femme, une mère, une jeune fille, une épouse dont la conduite semblerait s'écarter de la norme exigée par les mâles dominants, avec souvent des exécutions spectaculaires par lapidation sous les cailloux lancés par tous les membres mâles d'un village, par exemple. Donc ce système d'oppression s'est vu sacralisé, sanctifié, avec l'adoption de la religion islamique, non pas que cela soit intrinsèque à l'islam, mais ce qui est tout aussi grave, parce que les populations à se considérer comme les plus musulmanes de la planète ont voulu identifier leur identité musulmane à cette oppression traditionnelle des femmes. Il n'empêche que quand l'Afghanistan, en tant que royaume, est devenu diplomatiquement pleinement indépendant de l'Empire britannique en 1919, parmi les toutes premières mesures du jeune gouvernement indépendant afghan en 1919, a été de viser à l'éducation des femmes, à la création de lycées pour femmes, à l'émancipation féminine, dans l'idée que la création de lycées pour femmes dans les grands centres urbains finirait par leur exemple par faire taches d'huile et attirer peu à peu les ruraux à vouloir également envoyer leurs filles à l'école. Et la constitution afghane de 1923 avait interdit les châtiments corporels et notamment la mise à mort des femmes pour inconduite. La mise à mort étant une condition essentielle de tout esclavage. Interdire d'apprendre à lire et à écrire était la règle dans les plantations serviles du sud des États-Unis, comme elle l'est dans les villages afghans, pour la catégorie de la population qu'on veut maintenir dans la servilité. Cette constitution afghane de 1923, KAA, a été remise en fonction tout au long d'un terrible XXe siècle, avec des régressions tout aussi terribles, avec des réactions conservatrices violentes en 1929, puis la reprise par la monarchie assez libérale et assez occidentalisée d'une modification de la chariate et notamment la réouverture des lycées pour filles dans les grandes villes afghanes. Les communistes, entre 1978 et 1991, leur passage au pouvoir, ont énormément misé sur l'idée de l'émancipation féminine pour détacher les populations de leur religion traditionnelle et pour évidemment inféoder l'Afghanistan à l'URSS. Ce qui a eu pour contre-coup terrifiant que les résistants vis-à-vis de l'occupation soviétique, appuyés par les services secrets pakistanais, par le gouvernement américain et par le gouvernement chinois, j'ajoute toutes ces puissances extra-régionales, ces résistants contre l'occupation soviétique de l'Afghanistan ont fini par identifier droit féminin avec communisme et occupation soviétique. Mmh. Dans la guerre civile actuelle, parce que c'est toujours une guerre civile, de 2001 à 2021, les deux présidents afghans récents ont voulu encore une fois appliquer les clauses de la constitution de 1923 et les talibans les battent en brèche en proclamant hautement que cette constitution de 1923, mise à jour successivement, n'est tout simplement pas légitime, pas valable et qu'il faut rétablir l'entière domination des mâles sur les femelles, ce qui passe par la suppression de l'enseignement.
Alors, l'éducation, alors on reviendra bien sûr dans la deuxième partie de l'émission avec vous, Michael Barry, sur les propositions que vous faites. J'essaie d'équilibrer un tout petit peu les propos et donner la parole à Violaine Gagnier et Muriel Salmona, avec qui on va parler de la République démocratique du Congo. Michael Barry donc évoquait le système d'oppression qui prévaut aujourd'hui en Afghanistan. Dans le panorama, puisque on a bien compris que probablement la situation des femmes en Afghanistan était la pire, Michael Barry l'a dit en introduction de propos, de ce qui peut exister dans le monde. Une bonne nouvelle ces jours-ci, Violaine Gagnier, avec la loi sur pour essayer d'apporter un petit peu de choses et montrer que parfois les choses bougent un peu, évoluent. Je pense à l'exemple des Philippines avec la loi sur le mariage des enfants qui vient d'être adoptée et qui modifie un certain nombre de choses.
Oui, tout à fait. On est extrêmement contents à plan international puisqu'on a participé à cette campagne sur le gouvernement philippin. Effectivement, le 6 janvier rentre en vigueur la loi qui interdit le mariage des enfants forcés avant 18 ans, sans aucune exception, puisqu'on pourra en soutien revenir, mais le mariage des enfants, il y a beaucoup de lois dans beaucoup de pays. Il n'y a peut-être que le Soudan qui, en tout cas, n'a pas de loi, mais en principe, on retrouve toujours des articles de loi ou dans différents codes civils, pénals, etc., sur la lutte de mariage des enfants. Toutefois, là, ce qui est intéressant, il y a toujours des exceptions. Or, avec le consentement parental, avec le consentement du père, les filles peuvent être mariées beaucoup plus jeunes. Là, il y a interdiction totale. Donc, c'est effectivement une très grande victoire pour les enfants philippins.
Muriel Salmona, on n'a pas le temps de l'aborder dans la longueur, mais on démarrera la deuxième partie de l'émission avec vous sur tout le travail que fait le docteur Denis Mukwege, qui est gynécologue à Bukavu en République démocratique du Congo, qui soigne les victimes de violences sexuelles, son engagement qui a été récompensé par le prix Nobel de la paix. Et il réclame une convention internationale pour éliminer l'usage du viol comme arme de guerre. Ce qu'on a bien compris, c'est que tout cela, ces évolutions sont le fruit de luttes permanentes parce que finalement rien n'est acquis et comme l'expliquait Michael Barry sur la situation même en Afghanistan, on assiste à de très très fortes régressions. On vous retrouve Michael Barry, Muriel Salmona et Violaine Gagnier après le journal, à tout de suite.
Priorité santé.
Caroline. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique regarde sur la situation des femmes dans le monde. Nous retrouvons nos invités, Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur de Violences sexuelles, les 40 questions incontournables. Muriel Salmona, qui est également membre de la commission scientifique de la chaire internationale sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits, dite chaire Mukwege, et de la commission indépendante inceste et violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Également au studio, Violaine Gagné, directrice des programmes et opérations à Plan International France, ONG qui œuvre dans le monde à l'égalité filles-garçons. Et par téléphone, Michael Barry, écrivain américain, francophone et persanophone, ancien professeur au département d'études proche-orientales de l'université de Princeton et professeur en chef de l'université américaine d'Afghanistan qui se réinstalle désormais en Italie. Michael Barry, qui est également spécialiste de la miniature persane, auteur de très nombreux ouvrages sur l'art islamique et sur l'histoire et la géopolitique de l'Afghanistan. Son dernier livre, Le cri afghan, est paru récemment aux éditions L'Asiatèque. On a beaucoup parlé dans la première partie de l'émission de la situation en Afghanistan, particulièrement depuis le 15 août dernier avec le retour des talibans à Kaboul et les régressions que connaît la situation des femmes dans le pays avec Michael Barry. On y reviendra. J'aimerais qu'on passe un petit peu de temps peut-être avec vous, Muriel Salmona, maintenant sur la République démocratique du Congo. Vous travaillez avec le docteur Denis Mukwege, qui est, on le rappelle, gynécologue à Bukavu, donc en RDC, et qui soigne les victimes de violences sexuelles. Je rappelle que son engagement a été récompensé par le prix Nobel de la paix en 2018. Il réclame une convention internationale pour éliminer l'usage du viol comme arme de guerre. Il a publié un ouvrage récemment qui s'intitule « La force des femmes » aux éditions Gallimard. Quel regard portez-vous, Muriel Salmona, sur la situation en République démocratique du Congo, que l'on peut élargir à probablement toutes les situations de conflit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une progression et dans quel sens va-t-on, Muriel Salmona ?
Alors, c'est là aussi une situation qui reste extrêmement préoccupante. Bon, ça va bientôt faire près de 30 ans que la guerre sévit et que des viols systématiques sont commis aussi sur des filles et sur des femmes, essentiellement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on lutte au niveau international. On obtient quand même pas mal de choses au niveau des lois. Même, par exemple, en RDC, les lois sur les violences sexuelles sont plutôt assez bonnes. Mais partout, on est vraiment confronté au problème de l'application des lois. Et là, en l'occurrence, l'impunité qui règne par rapport à tous les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire même qualifiables de génocide qui ont été commis en RDC, et d'ailleurs qui ont fait l'objet d'un rapport, le rapport Mapping, qui a fait pas mal de recommandations et qui n'a jamais malheureusement été appliqué. C'est un rapport qui a été fait par l'ONU, qui a vraiment... établi plus de 600 massacres qui ont été commis.
Rapport publié il y a 10 ans.
Il y a 10 ans.
Voilà. Après, il ne s'est rien passé.
Il y a 11 ans maintenant. Ouais, il ne s'est rien passé. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a une impunité totale, les bourreaux sont là. Et ils sont à tous les niveaux de la société et à tous les niveaux aussi de tous les services publics, du gouvernement. Des policiers sont des bourreaux. Et que du coup, pour les femmes qui ont subi des violences, pour les proches de ceux qui ont été assassinés, c'est d'une difficulté extrême de pouvoir obtenir quelque chose, une justice. Et on le voit en termes, parce que maintenant, c'est vrai que les lois sur les viols de guerre, crimes contre l'humanité, les viols, crimes de génocide, elles sont là au niveau international, mais elles sont excessivement peu appliquées. Et derrière tout ça, il y a quand même une dimension extrêmement aussi... à la fois qui passe par des intérêts très importants géopolitiques, mais ça, ça va pas être notre propos là tout de suite, mais aussi par rapport à une dimension aussi de discrimination sexiste extrêmement importante, puisque ce sont les crimes qui vont être les moins condamnés, qui font pourtant l'objet de plaintes, trop peu, mais qui sont toujours, le plus souvent, classés sans suite, ou qui aboutissent à des non-lieux, ou qui n'aboutissent pas à des condamnations. Et que nous, là, on essaie de travailler avec le docteur Mukwege par rapport à tous ces crimes qui continuent à être commis, les massacres continuent à être commis, particulièrement en Ituri, au sud de Kivu, et on essaye de faire en sorte qu'il y ait une meilleure application, donc aussi de meilleures enquêtes au niveau médico-légal, que tous les conséquences psychotraumatiques soient prises en compte, enfin, et de vraiment batailler pour que tous les stéréotypes sexistes qui pèsent sur les filles et les femmes et qui font que ça se retourne contre elles, c'est-à-dire que ce qu'elles subissent, les viols qu'elles subissent, retournent contre elles, puissent être combattus et permettre d'obtenir justice. Et c'est qu'à ce prix-là que la paix pourra advenir à nouveau. Mais l'exploitation des femmes, qu'elles soient domestiques ou sexuelles, cette oppression, cette inégalité qu'elles subissent, ça permet d'offrir des privilèges inouïs à pas mal de gens dominants, et du coup de pouvoir vraiment organiser des systèmes de guerre, des systèmes totalitaires qui perdurent, avec comme conséquence sur les femmes, des conséquences très graves sur leur santé mentale et physique, mais aussi sur leur précarité et sur une augmentation des inégalités qu'elles subissent. Et du coup, avec un système comme ça qui les maintient, c'est comme si elles étaient au cœur aussi du maintien d'un système de domination, quel qu'il soit. La violence faite aux femmes devient une sorte de garant pour continuer à porter atteinte aux droits des êtres humains.
On peut rappeler que le docteur Denis Mukwege a été à plusieurs reprises victime de tentatives d'assassinat. C'est dire combien son combat dérange. Alors, il y a une volonté aussi de faire en sorte que le viol en situation de conflit soit considéré comme une arme inacceptable dans un conflit, à l'instar des armes chimiques. Je ne sais pas si cela pourra jamais aboutir. En tout cas, vous parlez de loi non impliqués. La question qui se pose, c'est de savoir, et je poserai la question tout à l'heure à Michael Barry, c'est la communauté internationale, est-ce qu'elle est en mesure d'agir concrètement contre ces situations, ces violences sexuelles perpétrées lors de conflits, en dehors de conflits, et dans le cas afghan. Violaine Gagné, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent, et vous-même, quels sont vos chevaux de bataille, je dirais, sur la question de l'égalité garçon-fille dans les actions que vous menez?
Oui, alors premièrement, je suis tout à fait d'accord avec Muriel, sur ce cercle vicieux des violences. Ça veut dire qu'une femme, elle va être victime de plusieurs types de violences, vous l'avez évoqué. Et nous, on parle souvent d'invisibilisation de la femme. C'est-à-dire que plus on est finalement soumise à de la violence, plus on va aussi être mise à l'écart de la société parce qu'on a été violée, maltraitée, etc. Que fait Plan International? Alors, c'est effectivement très important, les lois, le contrôle, les sanctions sont fondamentales, mais c'est aussi la sensibilisation, la prise de conscience des droits. Et donc, à Plan International, on travaille souvent à trois niveaux. Tout d'abord autour des filles, qu'elles arrivent à pouvoir connaître leurs droits. D'où l'importance aussi de l'école et de travailler. Alors s'il n'y a pas école, dans d'autres moyens, essayer de réunir ces filles, avoir un endroit sûr aussi, puisqu'en contexte de crise, de violence, elles ne vont évidemment pas pouvoir être libres de leur mouvement, mais essayer de trouver ces espaces où on va déjà les informer. Pour qu'il y ait une première conscience. Puisque malheureusement, l'être humain est fait comme ça. En tant que fille, je prends l'exemple du mariage forcé. Quand sa mère, sa grand-mère, arrière-grand-mère a été mariée de force, on pense plus ou moins que c'est normal. Plus ou moins. Attention, je pèse évidemment mes mots. Et donc, la première chose, c'est conscientisation des droits et de ce qu'elles sont en tant que femmes. Ensuite, on travaille auprès des communautés. Donc, les garçons, les parents, les leaders religieux ou traditionnels, selon le contexte, évidemment, pour changer les mentalités et ensuite, effectivement, à un niveau national. Mais on se rend bien compte qu'effectivement, vous disiez, Muriel, qu'une loi ne change rien s'il n'y a pas et la sanction, mais aussi la conscientisation auprès de la population que l'égalité des genres filles-garçons amènera effectivement la paix et le développement dans les pays.
Alors, Michael Barry, peut-être je vais vous demander de réagir à ce qui s'est dit sur la question de la République démocratique du Congo et ce que vient d'évoquer à l'instant Violaine Gagné. Et puis après ça, peut-être vous demander de revenir sur cette question du manque de considération envers les femmes qui, vous le dites, est un problème majeur. Ce n'est qu'en prenant en compte leur place légitime dans la société, dites-vous, que le pays, donc l'Afghanistan en l'occurrence, mais pas seulement, les pays concernés par cette problématique pourront vivre dans la paix et la dignité. Et vous rappelez avec force que la condition de la femme, où que ce soit dans le monde, eh bien, nous concerne tous. Michael Barry.
Oui, elle nous concerne tous, et il faut rappeler que c'est une conquête, comme l'abolition de l'esclavage a été une conquête. Il ne s'agit pas de projeter des valeurs dites occidentale, il s'agit de rappeler que l'humanité en tant que famille a eu un progrès extrêmement pénible et douloureux pour installer certaines notions à valeur universelle et non pas culturelle, non pas relative, comme l'égalité des sexes, comme l'égalité des races, deux conceptions qui sont d'ailleurs très très proches. Je voulais ajouter au catalogue de l'horreur, dans le cas afghan qui, je le rappelle, est paradigmatique. Il y a d'une part un État afghan qui, vis-à-vis du monde extérieur, voudra montrer une certaine, comment dire, modération par rapport à l'exubérance de ces atrocités des années 90. Mais ceci est à l'usage de la consommation internationale. Et les internationaux doivent rester extrêmement attentifs à ce qui circule dans le pays en réalité. Et j'ai reproduit des documents terrifiants où les membres de l'ethnie dominante à laquelle appartiennent les talibans font circuler dans les villages des populations minoritaires des édits exigeant la remise au commandant des talibans de toutes les jeunes filles à partir de l'âge de 15 ans et de toutes les femmes veuves comprises en dessous de l'âge de 45 ans pour être littéralement données aux membres de l'ethnie dominante. Ces femmes, ces filles doivent être conduites pour être indoctrinées, ce sont les textes qui le disent, dans l'islam véritable, en territoire pakistanais, où on voit bien qu'est l'origine de tous ces mouvements, afin de mettre au monde de véritables guerriers pachtounes et musulmans. C'est-à-dire que l'épuration ethnique à travers un véritable système d'esclavage est à l'œuvre aujourd'hui en Afghanistan. Derrière le camouflage officiel, vous voyez que nous modérons en permettant à certaines femmes de continuer à assurer leur métier indispensable de médecin. Mais ces mesures extérieures ne doivent pas dissimuler, camoufler l'atrocité qui est en cours actuellement à l'intérieur du pays et qui rejoint toutes les atrocités qu'on a pu voir dans le Congo oriental ou ailleurs.
Ce sont
des schémas paradigmatiques.
Oui, tout ce que vous dites, Michael Barry, est évidemment extraordinairement important. Que peut faire la communauté internationale ? Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot, mais enfin, je ne sais pas comment m'exprimer autrement ou dire le monde pour aider ces femmes en Afghanistan. Est-ce que vous gardez, vous, espoir d'un changement ? Alors, je sais que vous souhaitez que la cause des femmes afghanes rejoigne toutes les grandes causes humaines, les Noirs opprimés dans les années entre 1448 et 1992, les Juifs européens des années 1933-1945, les Ouïghours, les Tibétains, les Rohingyas d'aujourd'hui. Dans la hiérarchie des mesures possibles, quelles sont les plus importantes d'après vous ? Qu'est-ce qui peut être fait à l'extérieur
pour... Bien sûr. Étant donné que le régime des talibans est aux abois, techniquement incapable de nourrir sa propre population. Donc c'est un régime qui a besoin, qui sollicite l'assistance occidentale en particulier pour simplement nourrir sa base populaire. Cela donne à la communauté dite internationale, aux démocraties occidentales, le moyen de faire une pression constante sur le régime afghan pour qu'il soit obligé d'élargir sa vitrine de propagande internationale. C'est ce que La Rochefoucauld expliquait si joliment dans son paradoxe au XVIIe siècle. L'hypocrisie est l'hommage que rend le vice à la vertu. Contraindre les talibans à des gestes d'élargissement, c'est toujours ça de pris, c'est toujours ça de gagné. Mais je compare cet effort qui doit être absolument constant. Nourriture, oui. Médicaments, oui. Mais la communauté internationale exige le respect des droits alimentaires des femmes. Que cette pression ne cesse pas, de même qu'avant 1992, elle ne cessait pas sur l'Afrique du Sud pour la cause de l'égalité des Noirs avec les Blancs. C'est tout simplement une œuvre de longue haleine.
Une œuvre de très longue haleine. Alors, Pardon, mais on va revenir à la situation et les situations ailleurs. On a parlé de la République démocratique du Congo. Muriel Salmonin, vous travaillez beaucoup sur la situation en France aussi. Vous êtes très active. Enfin, c'est presque indécent, mais ce sont des situations différentes qui méritent aussi qu'on les aborde et qu'on les mette sur la table. En France, 113 femmes tuées sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons en 2021-2022, à peine débuté que des femmes ont été assassinées, à ce jour 3. Le sujet des violences conjugales n'a jamais été aussi présent dans le débat public. Est-ce suffisant, Muriel Salmonin ?
Non, rien n'est suffisant. Et puis on le voit bien, parce que les chiffres augmentent. On voit bien que, par exemple, la crise sanitaire a fait augmenter de façon très significative les violences sexuelles faites aux filles et aux femmes. Et que, comme toujours, à la fois, d'un côté, la situation d'impunité alimente ce système de violence. Les inégalités qui sont renforcées en situation de crise les augmentent aussi. Les conséquences de ces violences sur les femmes font que, là aussi, elles sont de plus en plus vulnérables aux violences. Plus elles subissent de violences, plus elles sont vulnérables aux violences. Et qu'en France, il y a des violences qui sont vraiment systémiques et peuvent même exploser dans un cadre, on l'a vu récemment avec le dossier du Monde, dans le cadre de la pornographie et particulièrement de la pédocriminalité sur le net. Ce qui augure très mal de l'avenir, parce que là, la demande est tellement explosive. Si on ne fait pas, si on n'agit pas, on va se retrouver avec de plus en plus d'enfants qui vont subir des actes de barbarie, des tortures à connotation sexuelle, et du coup aussi des agresseurs qui vont être de plus en plus actifs et drogués en quelque sorte à cette extrême violence. Donc il faut agir, là aussi on a gagné des batailles, on a fini par obtenir enfin un seuil d'âge du non-consentement, mais il faut voir à quel point il a fallu batailler. Mais finalement, avec toujours des personnes qui sont exclues. Et puis, par exemple, la situation des filles et des femmes en situation de handicap qui subissent beaucoup plus de violences. 4 à 6 fois plus de violences sexuelles, par exemple. 2 à 3 fois plus de violences intrafamiliales conjugales est un vrai problème. Plus vous êtes vulnérable, plus vous subissez de violences. Alors que plus vous êtes vulnérable, plus vous devez être protégé, plus vous devez être aidé, soutenu, plus vous devez avoir accès aux soins. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Le travail est énorme. Et la France ne remplit pas ses obligations internationales de lutter contre ces violences, particulièrement les violences sexuelles, de protéger les victimes, de les soigner, de les accompagner, de leur rendre justice et donc du coup de poursuivre et de condamner les auteurs. Donc elle pourrait être vraiment mise en cause. Et dernière chose, la France a un triste record. Elle est le deuxième pays en Europe et le troisième pays au niveau international à héberger le plus de sites pédocriminels et avoir le nombre d'utilisateurs de ces sites les plus importants. Et les moyens pour lutter contre ça sont vraiment ridicules, disons.
C'est-à-dire une vingtaine de policiers cyber patrouilleurs, 17 habilités contre 250 au Royaume-Uni. C'est dire toute la différence. Violaine Gagnier, je vous laisse la parole et ce sera les mots de conclusion sur cette émission consacrée à la situation des femmes. On a parlé de l'Afghanistan, on a parlé de la République démocratique du Congo, l'égalité homme-fille.
Oui, alors, effectivement, le tableau est extrêmement noir. Toutefois, il y a quand même des solutions. L'éducation est une solution pour les filles dans le monde. C'est vraiment important. On sait qu'une fille qui va à l'école, un an de plus de gagner, ça sera 10 à 20% de plus de revenus pour elle plus tard. Le revenu, le salaire, ça veut dire l'indépendance et l'autonomie aussi financière et économique. Mais il faut continuer. C'est-à-dire, je crois qu'on le voit, vous l'avez rappelé aussi en France, dans tout le monde, les stéréotypes de genre continuent, la discrimination sur les filles continue. Quand on est une fille, c'est même presque un handicap dès la naissance. Mais on peut continuer, il y a des choses. Et il faut surtout parier sur les jeunes. C'est eux qui seront plus tard aux commandes des différents pays. C'est avec eux qu'il faut travailler. C'est vrai que pour plan international, on engage les jeunes dès le début et entendre leur voix. C'est pas seulement les écouter, les former, les sensibiliser, mais aussi les écouter dans leurs besoins.
En tout cas, comme le disait Michael Barry, le combat pour la situation, la défense des droits des femmes est un combat de longue haleine. Michael Barry, merci. Vous étiez avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes écrivain américain, francophone et persanophone, ancien professeur au département d'études proche-orientales de l'université de Princeton et professeur en chef de l'université américaine d'Afghanistan qui se réinstalle désormais en Italie. Et votre dernier ouvrage, Le cri afghan, paru récemment aux éditions L'Asiatech. Merci aussi donc Violaine Gagnet, directrice des programmes et opérations à plan international France, ONG qui œuvre dans le monde à l'égalité filles-garçons. Et Muriel Salmona, psychiatre, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie, auteur de Violences sexuelles, les 40 questions incontournables. Muriel Salmona qui est également membre de la commission scientifique de la chaire internationale sur la violence faite aux femmes et aux filles dans les conflits, dite chaire Mukwege. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À samedi.